René s'inquiétait avec raison. Saccard, depuis quelque temps, songeait au mariage de son fils avec Mademoiselle de Mareuil. Il y avait là une dot d'1 million qu'il ne voulait pas laisser échapper, comptant plus tard mettre les mains dans cet argent. Louise, vers le commencement de l'hiver, était restée au lit pendant près de 3 semaines. Il eut une telle peur de la voir mourir avant l'union projetée qu'il se décida à marier les enfants tout de suite. Il les trouvait bien un peu jeunes, mais les médecins redoutaient le mois de mars pour la poitrinaire. De son côté, M. de Mareuil était dans une situation délicate. Au dernier scrutin, il avait enfin réussi à se faire nommer député. Seulement, le corps législatif venait de casser son élection, qui fut le scandale de la révision des pouvoirs. Cette élection était tout un poème héroïque-comique, sur lequel les journaux vécurent pendant 1 mois. M. Huppel de Lanoux, le préfet du département, avait déployé une telle vigueur que les autres candidats ne purent même afficher leur profession de foi, ni distribuer leur bulletin. Sur ses conseils, M. de Mareuil couvrit la circonscription de tables où les paysans burent et mangèrent pendant 1 semaine. Il promit, en outre, un chemin de fer, la construction d'un pont et de 3 églises, et adressa, la veille du scrutin, aux électeurs influents, les portraits de l'empereur et de l'impératrice, 2 grandes gravures recouvertes d'une vitre et encadrées d'une baguette d'or. Cet envoi eut un succès fou. La majorité fut écrasante. Mais quand la Chambre, devant l'éclat de rire de la France entière, se trouva forcée de renvoyer M. de Mareuil à ses électeurs, le ministre entra dans une colère terrible contre le préfet et le malheureux candidat, qui s'était montré vraiment trop roide. Il parla même de mettre la candidature officielle sur un autre nom. M. de Mareuil fut épouvanté. Il avait dépensé 300 000 francs dans le département. Il y possédait de grandes propriétés où il s'ennuyait et qu'il lui faudrait revendre à perte. Aussi vint-il supplier son cher collègue d'apaiser son frère, de lui promettre en son nom une élection tout à fait convenable. Ce fut en cette circonstance que Saccard reparla du mariage des enfants et que les deux pères l'arrêtèrent définitivement. Quand Maxime fut tâté à ce sujet, il éprouva un embarras. Louise l'amusait, la dot le tentait plus encore. Il dit oui, il accepta toutes les dates que Saccard voulut pour s'éviter l'ennui d'une discussion. Mais, au fond, il s'avouait que, malheureusement, les choses ne s'arrangeraient pas avec une si belle facilité. Renée ne voudrait jamais. Elle pleurerait, elle lui ferait des scènes. Elle était capable de commettre quelques gros scandales pour étonner Paris. C'était bien désagréable. Maintenant, elle lui faisait peur. Elle le couvait avec des yeux inquiétants. Elle le possédait si despotiquement qu'il croyait sentir des griffes s'enfoncer dans son épaule quand elle posait là sa main blanche. Sa turbulence devenait de la brusquerie. Et il y avait des sons brisés au fond de ses rires. Il craignait réellement qu'elle ne devînt folle une nuit entre ses bras. Chez elle, le remords, la crainte d'être surprise, les joies cruelles de l'adultère ne se traduisaient pas, comme chez les autres femmes, par des larmes et des accablements, mais par une extravagance plus haute, par un besoin de tapage plus irrésistible. Et, au milieu de son effarement grandissant, on commençait à entendre un râle, le détraquement de cette adorable et étonnante machine qui se cassait. Maxime attendait passivement une occasion qui le débarrassa de cette maîtresse gênante. Il disait de nouveau qu'ils avaient fait une bêtise. Si leur camaraderie avait d'abord mis dans leur rapport d'amoureux une volupté de plus, elle lui empêchait aujourd'hui de rompre, comme il l'aurait certainement fait avec une autre femme. Il ne serait plus revenu. C'était sa façon de dénouer ses amours, pour éviter tout effort et toute querelle. Mais il se sentait incapable d'un éclat, et il s'oubliait même volontiers encore dans les caresses de Renée. Elle était maternelle, elle payait pour lui, elle le tirerait d'embarras si quelque créancier se fâchait. Puis l'idée de Louise, l'idée du million de dot, revenait, lui faisait penser, jusque sous les baisers de la jeune femme, que tout cela était bel et bon, mais que ce n'était pas sérieux et qu'il faudrait bien que ça finisse. Une nuit, Maxime fut si rapidement décavé chez une dame où l'on jouait souvent jusqu'au jour, qu'il éprouva une de ces colères muettes de joueurs dont les poches sont vides. Il eût donné tout au monde pour pouvoir jeter encore quelques louis sur la table. Il prit son chapeau et, du pas machinal d'un homme poussé par une idée fixe, il alla au parc Monceau, ouvrit la petite grille, se trouva dans la serre. Il était plus de minuit. René lui avait défendu de venir ce soir-là. Maintenant, quand elle lui fermait sa porte, elle ne cherchait même plus à trouver une explication, et lui ne songeait qu'à profiter de son jour de congé. Il ne se souvint nettement de la défense de la jeune femme que devant la porte-fenêtre du petit salon, qui était fermée. D'ordinaire, quand il devait venir, René tournait à l'avance l'espagnolette de cette porte. « Bah !» pensa-t-il en voyant la fenêtre du cabinet de toilette éclairée. « Je vais siffler et elle descendra. Je ne la dérangerai pas. Si elle a quelques louis, je m'en irai tout de suite. » Et il siffla doucement. Souvent, d'ailleurs, il employait ce signal pour lui annoncer son arrivée. Mais ce soir-là, il siffla inutilement à plusieurs reprises. Il s'acharna, haussant le ton, ne voulant pas lâcher son idée d'emprunt immédiat. Enfin, il vit la porte-fenêtre s'ouvrir avec des précautions infinies, sans qu'il eût entendu le moindre bruit de pas. Dans le demi-jour de la serre, René lui apparut, les cheveux dénoués, à peine vêtue, comme si elle allait se mettre au lit. Elle était nu-pied. Elle le poussa vers un des berceaux, descendant les marches, marchant sur le sable des allées, sans paraître sentir le froid ni la rudesse du sol. « C'est bête de siffler si fort que ça » murmura-t-elle avec une colère contenue. « Je t'avais dit de ne pas venir. Que me veux-tu ? » « Eh, montons !» dit Maxime, surpris de cet accueil. « Je te dirai ça là-haut, tu vas prendre froid. » Mais comme il faisait un pas, elle le retint. Et il s'aperçut alors qu'elle était horriblement pâle. Une épouvante muette la courbait. Ses derniers vêtements, les dentelles de son linge, pendaient comme des lambeaux tragiques sur sa peau frissonnante. Il l'examinait avec un étonnement croissant. « Qu'as-tu donc ? Tu es malade ?» Et instinctivement, il leva les yeux. Il regarda, à travers les vitres de la serre, cette fenêtre du cabinet de toilette où il avait vu de la lumière. « Mais il y a un homme chez toi » dit-il tout à coup. « Non, non, ce n'est pas vrai » balbutia-t-elle, suppliante, affolée. « Allons donc, ma chère, je vois l'ombre !» Alors, ils restèrent là un instant, face à face, ne sachant que se dire. Les dents de René claquaient de terreur. Et il lui semblait qu'on jetait des seaux d'eau glacée sur ses pieds nus. Maxime éprouvait plus d'irritation qu'il n'aurait cru, mais il demeurait encore assez désintéressé pour réfléchir, pour se dire que l'occasion était bonne et qu'il allait rompre. « Tu ne me feras pas croire que c'est Céleste qui porte un paletot » continua-t-il. « Si les vitres de la serre n'étaient pas si épaisses, je reconnaîtrais peut-être le monsieur. » Elle le poussa plus profondément dans le noir des feuillages en disant, les mains jointes prises d'une terreur croissante, « Je t'en prie, Maxime !» Mais toute la taquinerie du jeune homme se réveillait, une taquinerie féroce qui cherchait à se venger. Il était trop frêle pour se soulager par la colère. Le dépit pinça ses lèvres et, au lieu de la battre, comme il en avait d'abord eu l'envie, il aiguisa sa voix. Il reprit. « Tu aurais dû me le dire, je ne serais pas venu vous déranger. Ça se voit tous les jours qu'on ne s'aime plus. Moi-même, je commençais à en avoir assez. » « Voyons, ne t'impatiente pas, je vais te laisser remonter. Mais pas avant que tu m'aies dit le nom du monsieur. »« Jamais, jamais !» murmura la jeune femme qui étouffait ses larmes. Ce n'est pas pour le provoquer, c'est pour savoir. Le nom, dis vite le nom et je pars. Il lui avait pris les poignets, il la regardait de son rire mauvais. Et elle se débattait, éperdue, ne voulant plus ouvrir les lèvres pour que le nom qu'il lui demandait ne pût s'en échapper. Nous allons faire du bruit, tu seras bien avancée. Qu'as-tu peur? Ne sommes-nous pas de bons amis? Je veux savoir qui me remplace, c'est légitime. Attends, je t'aiderai. C'est monsieur de Mussy dont la douleur t'a touchée. Elle ne répondit pas. Elle baissait la tête sous un pareil interrogatoire. Ce n'est pas monsieur de Mussy. Alors, le duc de Rosan? Vrai, non plus, il... Peut-être le comte de Chilbray. Pas davantage? Il s'arrêta, il chercha. Diable, c'est que je ne vois personne. Ce n'est pas mon père, après ce que tu m'as dit. René tressaillit, comme sous une brûlure, et sourdement, « Non, tu sais bien qu'il ne vient plus. Je n'aurais pas accepté, ce serait ignoble. »« Qui alors ?» Et il lui serrait plus fort les poignets. La pauvre femme lutta encore quelques instants. « Oh, Maxime, si tu savais, je ne puis pourtant pas dire. » Puis, vaincue, anéantie, regardant avec effroi la fenêtre éclairée, « C'est monsieur de Saffré !» balbutia-t-elle très bas. Maxime, que son jeu cruel amusait, pâlit extrêmement devant cet aveu qu'il sollicitait avec tant d'insistance. Il fut irrité de la douleur inattendue que lui causait ce nom d'homme. Il rejeta violemment les poignets de René, s'approchant, lui disant en plein visage les dents serrées « Tiens, veux-tu savoir? Tu es une... » Il dit le mot. Et il s'en allait lorsqu'elle courut à lui, sanglotante, le prenant dans ses bras, murmurant des mots de tendresse, des demandes de pardon, lui jurant qu'elle l'adorait toujours et que le lendemain elle lui expliquerait tout. Mais il se dégagea, il ferma violemment la porte de la serre en répondant « Eh non, c'est fini, j'en ai plein le dos !» Elle resta écrasée, elle le regarda traverser le jardin. Il lui semblait que les arbres de la serre tournaient autour d'elle. Puis, lentement, elle traîna ses pieds nus sur le sable des allées. Elle remonta les marches du perron, la peau marbrée par le froid, plus tragique dans le désordre de ses dentelles. En haut, elle répondit aux questions de son mari, qui l'attendait, qu'elle avait cru se rappeler l'endroit où pouvait être tombé un petit carnet perdu depuis le matin. Et, quand elle fut couchée, elle éprouva tout à coup un désespoir immense en réfléchissant qu'elle aurait dû dire à Maxime que son père, rentré avec elle, l'avait suivie dans sa chambre pour l'entretenir d'une question d'argent quelconque. Ce fut le lendemain que Saccard se décida à brusquer le dénouement de l'affaire de Charonne. Sa femme lui appartenait. Il venait de la sentir douce et inerte entre ses mains, comme une chose qui s'abandonne. D'autre part, le tracé du boulevard du Prince Eugène allait être arrêté. Il fallait que René fût dépouillé avant que l'expropriation prochaine s'ébruitât. Saccard montrait dans toute cette affaire un amour d'artiste. Il regardait mûrir son plan avec dévotion, tendait ses pièges avec les raffinements d'un chasseur qui met de la coquetterie à prendre galamment le gibier. C'était, chez lui, une simple satisfaction de joueur adroit, d'homme goûtant une volupté particulière aux gains volés. Il voulait avoir les terrains pour un morceau de pain, quitte à donner 100 000 francs de bijoux à sa femme, dans la joie du triomphe. Les opérations les plus simples se compliquaient dès qu'il s'en occupait, devenaient des drames noirs. Il se passionnait, il aurait battu son père pour une pièce de 100 sous. Et il semait ensuite l'or royalement. Mais, avant d'obtenir de René la cession de sa part de propriété, il eut la prudence d'aller tâter l'arsenal sur les intentions de chantage qu'il avait flairées en lui. Son instinct le sauva en cette circonstance. l'agent d'expropriation avait cru, de son côté, que le fruit était mûr et qu'il pouvait le cueillir. Lorsque Saccard entra dans le cabinet de la rue de Rivoli, il trouva son compère bouleversé, donnant les signes du plus violent désespoir. « Ah, mon ami !» murmura celui-ci en lui prenant les mains. « Nous sommes perdus. J'allais courir chez vous pour nous concerter, pour nous sortir de cette horrible aventure. » Tandis qu'il se tordait les bras et essayait un sanglot, Saccard remarqua qu'il était en train de signer des lettres au moment de son entrée et que les signatures avaient une netteté admirable. Il le regarda tranquillement en disant « Bah, qu'est-ce qui nous arrive donc ?» Mais l'autre ne répondit pas tout de suite. Il s'était jeté dans son fauteuil devant son bureau et là, les coudes sur le buvard, le front entre les mains, il se branlait furieusement la tête. Enfin, d'une voix étouffée, « On m'a volé le registre, vous savez !» Et il conta qu'un de ses commis, un gueux digne du bagne, lui avait soustrait un grand nombre de dossiers, parmi lesquels se trouvait le fameux registre. Le pis était que le voleur avait compris le parti qu'il pouvait tirer de cette pièce et qu'il voulait se la faire racheter 100 000 francs. Saccard réfléchissait. Le compte lui parut par trop grossier. Évidemment, l'Arsenault se souciait peu, au fond, d'être cru. Il cherchait un simple prétexte pour lui faire entendre qu'il voulait 100 000 francs dans l'affaire de Charonne. Et même à cette condition, il rendrait les papiers compromettants qu'il avait entre les mains. Le marché parut trop lourd à Saccard. Il aurait volontiers fait la part de son ancien collègue, mais cette embûche tendue, cette vanité de le prendre pour dupe, l'irritait. D'ailleurs, il n'était pas sans inquiétude. Il connaissait le personnage. Il le savait très capable de porter les papiers à son frère le ministre, qui aurait certainement payé pour étouffer tout scandale. « Diable !» murmura-t-il en s'asseyant à son tour. « Voilà une vilaine histoire. Et pourrait-on voir le gueux en question ?»« Je vais l'envoyer chercher, » dit l'Arsenault. « Il demeure à côté, rue Jean Lantier. » 10 minutes ne s'étaient pas écoulées qu'un petit jeune homme, louche, les cheveux pâles, la face couverte de taches de rousseur, entra doucement, en évitant que la porte fît du bruit. Il était vêtu d'une mauvaise redingote noire trop grande et horriblement râpée. Il se tint debout, à distance respectueuse, regardant Saccard du coin de l'œil, tranquillement. L'Arsenault, qu'il appelait Baptistin, lui fit subir un interrogatoire, auquel il répondit par des monosyllabes, sans se troubler le moins du monde. Et il recevait en toute indifférence les noms de voleurs, d'escrocs, de scélérats, dont son patron croyait devoir accompagner chacune de ses demandes. Saccard admira le sang-froid de ce malheureux. À un moment, l'agent d'expropriation s'élança de son fauteuil comme pour le battre, et il se contenta de reculer d'un pas, en louchant avec plus d'humilité. « C'est bien, laissez-le, » dit le financier. « Alors, monsieur, vous demandez 100 000 francs pour rendre les papiers ?»« Oui, 100 000 francs, » répondit le jeune homme. Et il s'en alla. L'Arsenault paraissait ne pouvoir se calmer. « Hein, quelle crapule !» balbutia-t-il. « Avez-vous vu ces regards faux ? Ces gaillards-là vous ont l'air timides et vous assassinerez un homme pour 20 francs. » Mais Saccard l'interrompit en disant « Bah, il n'est pas terrible. Je crois qu'on pourra s'arranger avec lui. Je venais pour une affaire beaucoup plus inquiétante. Vous aviez raison de vous défier de ma femme, mon cher ami. Imaginez-vous qu'elle vend sa part de propriété à M. Hafner. Elle a besoin d'argent, dit-elle. C'est son amie Suzanne qui a dû la pousser. » L'autre cessa brusquement de se désespérer. Il écoutait, un peu pâle, rajustant son col droit qui avait tourné dans sa colère. « Cette cession, continua Saccard, est la ruine de nos espérances. Si M. Hafner devient votre co-associé, non seulement nos profits sont compromis, mais j'ai une peur affreuse de nous trouver dans une situation très désagréable vis-à-vis de cet homme méticuleux qui voudra éplucher les comptes. » L'agent d'expropriation se mit à marcher d'un pas agité, faisant craquer ses bottines vernies sur le tapis. « Voyez, murmura-t-il, dans quelle situation on se met pour rendre service aux gens. Mais, mon cher, à votre place, j'empêcherai absolument ma femme de faire une pareille sottise. Je la battrai plutôt. » « Ah, mon ami, dit le financier avec un fin sourire, je n'ai pas plus d'action sur ma femme que vous ne paraissez en avoir sur cette canaille de Baptistin. » L'arsenal s'arrêta net devant sa carre, qui souriait toujours, et le regarda d'un air profond. Puis il reprit sa marche de long en large, mais d'un pas lent et mesuré. Il s'approcha d'une glace, remonta son nœud de cravate, marcha encore, retrouvant son élégance. Et tout d'un coup, « Baptistin » cria-t-il. Le petit jeune homme louche entra, mais par une autre porte. Il n'avait plus son chapeau et roulait une plume entre ses doigts. « Va chercher le registre, » lui dit l'arsenal. Et quand il ne fut plus là, il débattit la somme qu'on devait lui donner. « Faites cela pour moi, » finit-il par dire carrément. Alors, Saccard consentit à donner 30 000 francs sur les bénéfices futurs de l'affaire de Charonne. Il estimait qu'il se tirait encore à bon marché de la main gantée de l'usurier. Ce dernier fit mettre la promesse à son nom, continuant la comédie jusqu'au bout, disant qu'il tiendrait compte des 30 000 francs au jeune homme. Ce fut avec des rires de soulagement que Saccard brûla le registre à la flamme de la cheminée, feuille à feuille. Puis, cette opération terminée, il échangea de vigoureuses poignées de main avec l'arsenal et le quitta en lui disant « Vous allez ce soir chez l'or, n'est-ce pas ? Attendez-moi, j'aurai tout arrangé avec ma femme. » Nous prendrons nos dernières dispositions. » Laure d'Origny, qui déménageait souvent, habitait alors un grand appartement du boulevard Haussmann, en face de la chapelle expiatoire. Elle venait de prendre un jour par semaine, comme les dames du vrai monde. C'était une façon de réunir à la fois les hommes qui la voyaient, un par un dans la semaine. Aristide Saccard triomphait les mardis soirs. Il était l'amant en titre, et il tournait la tête avec un rire vague quand la maîtresse de la maison le trahissait entre deux portes, en accordant pour le soir même un rendez-vous à un de ses messieurs. Lorsqu'il était resté le dernier de la bande, il allumait encore un cigare, causait affaire, plaisantait un instant sur le monsieur qui se morfondait dans la rue en attendant qu'il sortît. Puis, après avoir appelé Laure sa chère enfant, et lui avoir donné une belle tape sur la joue, il s'en allait tranquillement par une porte, tandis que le monsieur entrait par une autre. Le secret traité d'alliance qui avait consolidé le crédit de Saccard et fait trouver à la d'Origny deux mobiliers en un mois continuait à les amuser. Mais Laure voulait un dénouement à cette comédie. Ce dénouement, arrêté à l'avance, devait consister dans une rupture publique au profit de quelque imbécile qui paierait cher le droit d'être l'entreteneur sérieux et connu de tout Paris. L'imbécile était trouvé. Le duc de Rosan, las d'assommer inutilement les femmes de son monde, rêvait une réputation de débauché pour accentuer d'un relief sa figure fade. Il était très assidu au mardi de l'or, dont il avait fait la conquête par sa naïveté absolue. Malheureusement, à 35 ans, il se trouvait encore sous la dépendance de sa mère, à tel point qu'il pouvait disposer au plus d'une dizaine de louis à la fois. Les soirs où Laure daignait lui prendre ses 10 louis, en se plaignant, en parlant des 100 000 francs dont elle aurait besoin, il soupirait, il lui promettait la somme pour le jour où il serait le maître. Ce fut alors qu'elle eut l'idée de lui faire lier amitié avec l'arsenal, un des bons amis de la maison. Les deux hommes allèrent déjeuner ensemble chez Tortoni, et au dessert, l'arsenal, en contant ses amours avec une Espagnole délicieuse, prétendit connaître des prêteurs. Mais il conseilla vivement à Rosan de ne jamais passer par leurs mains. Cette confidence endiabla le duc, qui finit par arracher à son bon ami la promesse de s'occuper de sa petite affaire. Il s'en occupa si bien qu'il devait porter l'argent le soir même où Saccard lui avait donné rendez-vous chez l'or. Lorsque l'arsenal arriva, il n'y avait encore dans le grand salon blanc et or de la Dorigny que 5 ou 6 femmes qui lui prirent les mains, lui sautèrent au cou avec une fureur de tendresse. Elles l'appelaient « ce grand lard », un diminutif caressant que l'or avait inventé. Et lui, d'une voix flûtée, « Là, là, mes petites chattes, vous allez écraser mon chapeau !» Elles se calmèrent, elles l'entourèrent étroitement sur une causeuse, tandis qu'il leur contait une indigestion de Sylvia, avec laquelle il avait soupé la veille. Puis, tirant un drageoir de la poche de son habit, il leur offrit des pralines. Mais Laure sortit de sa chambre à coucher, et, comme plusieurs messieurs arrivaient, elle entraîna l'arsenal dans un boudoir, situé à l'un des bouts du salon, dont une double portière le séparait. « As-tu l'argent ?» lui demanda-t-elle quand ils furent seuls. Elle le tutoyait dans les grandes circonstances. L'arsenal, sans répondre, s'inclina plaisamment en frappant sur la poche intérieure de son habit. « Oh, ce grand lard !» murmura la jeune femme ravie. Elle le prit par la taille et l'embrassa. « Attends, » dit-elle, « je veux tout de suite les chiffons. Rosan est dans ma chambre, je vais le chercher. » Mais il la retint et, lui baisant à son tour les épaules, « Tu sais quelle commission je t'ai demandé à toi ?»« Eh oui, grande bête, c'est convenu. » Elle revint, amenant Rosan. L'arsenal était mis plus correctement que le duc, ganté plus juste, cravaté avec plus d'art. Ils se touchèrent négligemment la main et parlèrent des courses de l'avant-veille, où un de leurs amis avait eu un cheval battu. Laure piétinait. « Voyons, ce n'est pas tout ça, mon chéri, » dit-elle à Rosan. « Le grand lard a l'argent, tu sais, il faudrait terminer. » L'arsenal parut se souvenir. « Ah oui, c'est vrai, dit-il, j'ai la somme. Mais que vous auriez bien fait de m'écouter, mon bon. Est-ce que ces gueux ne m'ont pas demandé le 50%? Enfin, j'ai accepté quand même. Vous m'aviez dit que ça ne faisait rien. » Lord Dorigny s'était procuré des feuilles de papier timbré dans la journée. Mais quand il fut question d'une plume et d'un encrier, elle regarda les deux hommes d'un air consterné, doutant de trouver chez elle ses objets. Elle voulait aller voir à la cuisine lorsque l'arsenal tira de sa poche, de la poche où était le drageoir, 2 merveilles, un porte-plume en argent qui s'allongeait à l'aide d'une vis et un encrier, acier et ébène, d'un fini et d'une délicatesse de bijoux. Et, comme Rosan s'asseyait, « Faites les billets à mon nom. » « Vous comprenez, je n'ai pas voulu vous compromettre. Nous nous arrangerons ensemble. 6 effets de 25 000 francs chacun, n'est-ce pas ?» Laure comptait sur un coin de la table les chiffons. Rosan ne les vit même pas. Quand il eut signé et qu'il leva la tête, ils avaient disparu dans la poche de la jeune femme. Mais elle vint à lui et l'embrassa sur les 2 joues, ce qui parut le ravir. L'arsenal les regardait philosophiquement en pliant les effets et en remettant l'écritoire et le porte-plume dans sa poche. La jeune femme était encore au cou de Rosan lorsque Aristide Saccard souleva un coin de la portière. « Eh bien, ne vous gênez pas, » dit-il en riant. Le duc rougit. Mais Laure alla secouer la main du financier en échangeant avec lui un clignement d'yeux d'intelligence. Elle était radieuse. « C'est fait, mon cher, » dit-elle. « Je vous avais prévenu, vous ne m'en voulez pas trop. » Saccard haussa les épaules d'un air bonhomme. Il écarta la portière et, s'effaçant pour livrer passage à Laure et au duc, il cria d'une voix glapissante d'huissier « Monsieur le duc, madame la duchesse !» cette plaisanterie eut un succès fou. Le lendemain, les journaux la contèrent, en nommant crûment Lord Origny et en désignant les deux hommes par des initiales très transparentes. La rupture d'Aristide Saccard et de la grosse Laure fit plus de bruit encore que leurs prétendus amours. Cependant, Saccard avait laissé retomber la portière sur l'éclat de gaieté que sa plaisanterie avait soulevé dans le salon. « Quelle bonne fille !» dit-il en se tournant vers l'Arsenault. « Elle est d'un vice. C'est vous, Gredin, qui devez bénéficier dans tout ceci. Qu'est-ce qu'on vous donne ?» Mais il se défendit avec des sourires, et il tirait ses manchettes qui remontaient. Il vint enfin s'asseoir, près de la porte, sur une causeuse où Saccard l'appelait du geste. « Venez là, je ne veux pas vous confesser, que diable ! Vos affaires sérieuses maintenant, mon bon. J'ai eu ce soir une longue conversation avec ma femme. Tout est conclu. »« Elle consent à céder sa part ?» demanda l'Arsenault. « Oui, mais ça n'a pas été sans peine. Les femmes sont d'un entêtement. Vous savez, la mienne avait promis de ne pas vendre à une vieille tante. C'était des scrupules à n'en plus finir. Heureusement que j'avais préparé une histoire tout à fait décisive. » Il se leva pour allumer un cigare au candélabre que Laure avait laissé sur la table et, revenant s'allonger mollement au fond de la causeuse, « J'ai dit à ma femme, continua-t-il, que vous étiez tout à fait ruinée. Vous avez joué à la bourse, mangé votre argent avec des filles, tripoté dans de mauvaises spéculations. Enfin, vous êtes sur le point de faire une faillite épouvantable. J'ai même donné à entendre que je ne vous croyais pas d'une parfaite honnêteté. Alors je lui ai expliqué que l'affaire de Charonne allait sombrer dans votre désastre et que le mieux serait d'accepter la proposition que vous m'aviez faite de la dégager en lui achetant sa part pour un morceau de pain, il est vrai. « Ce n'est pas fort, » murmura l'agent d'expropriation. « Et vous vous imaginez que votre femme va croire de pareilles bourdes ?» Saccard eut un sourire. Il était dans une heure d'épanchement. « Vous êtes naïf, mon cher, » reprit-il. « Le fond de l'histoire importe peu. Ce sont les détails, le geste et l'accent qui sont tout. Appelez Rosan, et je parie que je lui persuade qu'il fait grand jour. Et ma femme n'a guère plus de tête que Rosan. Je lui ai laissé entrevoir des abîmes. Elle ne se doute pas même de l'expropriation prochaine. Comme elle s'étonnait qu'en pleine catastrophe, vous puissiez songer à prendre une plus lourde charge, je lui ai dit que sans doute elle vous gênait dans quelque mauvais coup ménagé à vos créanciers. Enfin, je lui ai conseillé l'affaire comme l'unique moyen de ne pas se trouver mêlé à des procès interminables et de tirer quelque argent des terrains. » L'Arsenault continuait à trouver l'histoire un peu brutale. Il était de méthode moins dramatique. Chacune de ses opérations se nouait et se dénouait avec des élégances de comédie de salon. « Moi, j'aurais imaginé autre chose, » dit-il. « Enfin, chacun son système. Il ne nous reste alors qu'à payer. »« C'est à ce sujet, » répondit Saccard, « que je veux m'entendre avec vous. Demain, je porterai l'acte de cession à ma femme. » Et elle aura simplement à vous faire remettre cet acte pour toucher le prix convenu. Je préfère éviter toute entrevue. » Jamais il n'avait voulu, en effet, que l'Arsenault vînt chez eux sur un pied d'intimité. Il ne l'invitait pas. L'accompagnait chez René les jours où il fallait absolument que les deux associés se rencontrassent. Cela était arrivé 3 fois. Presque toujours, il traitait avec des procurations de sa femme, pensant qu'il était inutile de lui laisser voir ses affaires de trop près. Il ouvrit son portefeuille en ajoutant « Voici les 200 000 francs de billets souscrits par ma femme. Vous les lui donnerez en paiement et vous ajouterez 100 000 francs que je vous porterai demain dans la matinée. Je me saigne, mon cher ami. Cette affaire me coûte les yeux de la tête. » « Mais, fit remarquer l'agent d'expropriation, « cela ne va faire que 300 000 francs. Est-ce que le reçu sera de cette somme ?»« Reçu 300 000 francs, reprit Saccard en riant. Ah bien, nous serions propres plus tard. Il faut, d'après nos inventaires, que la propriété soit estimée aujourd'hui 2 500 000 francs. Le reçu sera de la moitié, naturellement. Jamais votre femme ne voudra le signer. Et si, je vous dis que tout est convenu. Parbleu, je lui ai dit que c'était votre première condition. Vous nous mettez le pistolet sous la gorge avec votre faillite, comprenez-vous? Et c'est là que j'ai paru douter de votre honnêteté et que je vous ai accusé de vouloir duper vos créanciers. Est-ce que ma femme comprend quelque chose à tout cela? L'Arsonneau hochait la tête en murmurant « N'importe, vous auriez dû chercher quelque chose de plus simple. » « Mais mon histoire est la simplicité même !» dit Saccard très étonné. « Où diable voyez-vous qu'elle se complique ?» Il n'avait pas conscience du nombre incroyable de ficelles qu'il ajoutait à l'affaire la plus ordinaire. Il goûtait une vraie joie dans ce conte à dormir debout qu'il venait de faire à René. Et ce qui le ravissait, c'était l'impudence du mensonge, l'entassement des impossibilités, la complication étonnante de l'intrigue. Depuis longtemps, il aurait eu les terrains s'il n'avait pas imaginé tout ce drame. Mais il aurait éprouvé moins de jouissance à les avoir aisément. D'ailleurs, il mettait la plus grande naïveté à faire de la spéculation de Charonne tout un mélodrame financier. Il se leva. Et, prenant le bras de l'Arsonneau, se dirigeant vers le salon, « Vous m'avez bien compris, n'est-ce pas? Contentez-vous de suivre mes instructions, et vous m'applaudirez après. Voyez-vous, mon cher, vous avez tort de porter des gants jaunes, c'est ce qui vous gâte la main. » L'agent d'expropriation se contenta de sourire, en murmurant, « Oh, les gants ont du bon, cher maître, on touche à tout sans se salir. » Comme il rentrait dans le salon, Saccard fut surpris et quelque peu inquiet de trouver Maxime de l'autre côté de la portière. Le jeune homme était assis sur une causeuse, à côté d'une dame blonde, qui lui racontait d'une voix monotone une longue histoire, la sienne sans doute. Il avait, en effet, entendu la conversation de son père et de l'Arsonneau. Les deux complices lui paraissaient de rudes gaillards. Encore vexé de la trahison de René, il goûtait une joie lâche à apprendre le vol dont elle allait être la victime. Ça le vengeait un peu. Son père vint lui serrer la main d'un air soupçonneux, mais Maxime lui dit à l'oreille, en lui montrant la dame blonde, « Elle n'est pas mal, n'est-ce pas? Je veux la faire pour ce soir. » Alors Saccard se dandina, fut galant. Laure d'Origny vint les rejoindre un moment. Elle se plaignait de ce que Maxime lui rendit à peine visite une fois par mois. Mais il prétendit avoir été très occupé, ce qui fit rire tout le monde. Il ajouta que désormais on ne verrait plus que lui. « J'ai écrit une tragédie, dit-il, et j'ai trouvé le 5e acte hier seulement. Je compte me reposer chez toutes les belles femmes de Paris. » Il riait, il goûtait ces allusions que lui seul pouvait comprendre. Cependant, il ne restait plus dans le salon, aux deux coins de la cheminée, que Rosan et l'Arsonneau. Les Saccard se levèrent, ainsi que la dame blonde, qui demeurait dans la maison. Alors, la d'Origny alla parler bas au duc. Il parut surpris et contrarié, voyant qu'il ne se décidait pas à quitter son fauteuil. « Non, vrai, pas ce soir, » dit-elle à demi-voix. « J'ai une migraine. » Demain, je vous le promets. » Rosan dut obéir. Laure attendit qu'il fût sur le palier pour dire vivement à l'oreille de l'Arsonneau « Hein, grand lard, je suis de parole, fourre-le dans sa voiture !» Quand la dame blonde prit congé de ces messieurs pour remonter à son appartement qui était à l'étage supérieur, Saccard fut étonné de ce que Maxime ne la suivait pas. « Eh bien ?» lui demanda-t-il. « Ma foi, non, » répondit le jeune homme, « j'ai réfléchi. » Puis il eut une idée qu'il crut très drôle. « Je te cède la place, si tu veux. Dépêche-toi, elle n'a pas encore fermé sa porte. » Mais le père haussa doucement les épaules en disant, Merci, j'ai mieux que cela pour l'instant, mon petit. » Les quatre hommes descendirent. En bas, le duc voulait absolument prendre l'Arsenault dans sa voiture. Sa mère demeurait au Marais, il aurait laissé l'agent d'expropriation à sa porte, rue de Rivoli. Celui-ci refusa, ferma la portière lui-même, dit au cocher de partir. Et il resta sur le trottoir du boulevard Haussmann avec les deux autres, causant, ne s'éloignant pas. « Ah, ce pauvre Rosan !» dit Saccard, qui comprit tout à coup. L'Arsenault jura que non, qu'il se moquait pas mal de ça, qu'il était un homme pratique. Et, comme les deux autres continuaient à plaisanter et que le froid était très vif, il finit par s'écrier « Ma foi, tant pis, je sonne. Vous êtes des indiscrets, messieurs. »« Bonne nuit !» lui cria Maxime lorsque la porte se referma. Et, prenant le bras de son père, il remonta avec lui le boulevard. Il faisait une de ces claires nuits de gelée où il est si bon de marcher sur la terre dure dans l'air glacé. Saccard disait que l'Arsenault avait tort, qu'il fallait être simplement le camarade de la Dorigny. Il partit de là pour déclarer que l'amour de ses filles était vraiment mauvais. Il se montrait moral, il trouvait des sentences, des conseils étonnants de sagesse. « Vois-tu, dit-il à son fils, ça n'a qu'un temps, mon petit. On y perd sa santé et l'on n'y goûte pas le vrai bonheur. Tu sais que je ne suis pas un bourgeois. Eh bien, j'en ai assez. Je me range. » Maxime ricanait. Il arrêta son père, le contempla au clair de lune en déclarant qu'il avait une bonne tête. Mais Saccard se fit plus grave encore. « Plaisante tant que tu voudras. Je te répète qu'il n'y a rien de tel que le mariage pour conserver un homme et le rendre heureux. » Alors, il lui parla de Louise, et il marcha plus doucement, pour terminer cette affaire, disait-il, puisqu'ils en causaient. La chose était complètement arrangée. Il lui apprit même qu'il avait fixé avec M. de Mareuil la date de la signature du contrat, au dimanche qui suivrait le jeudi de la mi-carême. Ce jeudi-là, il devait y avoir une grande soirée à l'hôtel du Parc Monceau, et il en profiterait pour annoncer publiquement le mariage. Maxime trouva tout cela très bien. Il était débarrassé de René, il ne voyait plus d'obstacles. Il se livrait à son père comme il s'était livré à sa belle-mère. « Eh bien, c'est entendu, dit-il. Seulement, n'en parle pas à René. Ses amis me plaisanteraient, me taquineraient, et j'aime mieux qu'elle sache la chose en même temps que tout le monde. » Saccard lui promit le silence. Puis, comme ils arrivaient vers le haut du boulevard Malesherbes, il lui donna de nouveau une foule d'excellents conseils. Il lui apprenait comment il devait s'y prendre pour faire un paradis de son mariage. « Surtout, ne romps jamais avec ta femme, c'est une bêtise. Une femme avec laquelle on n'a plus de rapport vous coûte les yeux de la tête. D'abord, il faut payer quelques filles, n'est-ce pas ? Puis la dépense est bien plus grande à la maison. C'est la toilette, ce sont les plaisirs particuliers de madame, les bonnes amies, tout le diable et son train. » Il était dans une heure de vertu extraordinaire. Le succès de son affaire de Charonne lui mettait au cœur des tendresses d'idylle. « Moi, continua-t-il, j'étais né pour vivre heureux et ignoré au fond de quelques villages, avec toute ma famille à mes côtés. « On ne me connaît pas, mon petit. J'ai l'air comme ça, très en l'air. Eh bien, pas du tout. J'adorerais rester près de ma femme. Je lâcherais volontiers mes affaires pour une rente modeste qui me permettrait de me retirer à Plassans. Tu vas être riche. Fais-toi avec Louise un intérieur où vous vivrez comme deux tourtereaux. C'est si bon. J'irai vous voir, ça me fera du bien. » Il finissait par avoir des larmes dans la voix. Cependant, ils étaient arrivés devant la grille de l'hôtel et ils causaient sur le bord du trottoir. Sur ces hauteurs de Paris, une bise soufflait. Pas un bruit ne montait dans la nuit pâle d'une blancheur de gelée. Maxime, surpris des attendrissements de son père, avait depuis un instant une question sur les lèvres. « Mais toi, » dit-il enfin, « il me semble... »«
Quoi ?»«
Avec ta femme... » Saccard haussa les épaules.
« Eh, parfaitement, j'étais un imbécile. C'est pourquoi je te parle en toute expérience. Mais nous nous sommes remis ensemble. »
« Oh, tout à fait. Il y a bientôt 6 semaines. Je vais la retrouver le soir quand je ne rentre pas trop tard. Aujourd'hui, la pauvre Bichette se passera de moi. J'ai à travailler jusqu'au jour. C'est qu'elle est joliment faite. »
Comme Maxime lui tendait la main, il le retint. Il ajouta à voix plus basse d'un ton de confidence.
« Tu sais, la taille de Blanche Muller. Eh bien, c'est ça, mais 10 fois plus souple. Et les hanches, donc, elles sont d'un dessin, d'une délicatesse. »
Et il conclut en disant au jeune homme qui s'en allait, « Tu es comme moi, tu as du cœur, ta femme sera heureuse. Au revoir, mon petit. »
Quand Maxime fut enfin débarrassé de son père, il fit rapidement le tour du parc. Ce qu'il venait d'entendre le surprenait si fort qu'il éprouvait l'irrésistible besoin de voir René. Il voulait lui demander pardon de sa brutalité, savoir pourquoi elle lui avait menti en lui nommant Monsieur de Saffré, connaître l'histoire des tendresses de son mari. Mais tout cela confusément, avec le seul désir net de fumer chez elle un cigare et de renouer leur camaraderie. Si elle était bien disposée, il comptait même lui annoncer son mariage, pour lui faire entendre que leurs amours devaient rester mortes et enterrées. Quand il eut ouvert la petite porte, dont il avait heureusement gardé la clé, il finit par se dire que sa visite, après la confidence de son père, était nécessaire et tout à fait convenable. Dans la serre, il siffla comme la veille, mais il n'attendit pas. René vint lui ouvrir la porte-fenêtre du petit salon et monta devant lui sans parler. Elle rentrait à peine d'un bal de l'hôtel de ville. Elle était encore vêtue d'une robe blanche de tulle bouillonnée, semée de nœuds de satin. Les basques du corsage de satin se trouvaient encadrées d'une large dentelle de jais blanc que la lumière des candélabres moirait de bleu et de rose. Quand Maxime la regarda en haut, il fut touché de sa pâleur, de l'émotion profonde qui lui coupait la voix. Elle ne devait pas l'attendre, elle était toute frissonnante de le voir arriver comme à l'ordinaire, tranquillement, de son air câlin. Céleste revint de la garde-robe où elle était allée chercher une chemise de nuit, et les amants continuaient à garder le silence, attendant que cette fille ne fût plus là. Ils ne se gênaient pas d'habitude devant elle, mais des pudeurs leur venaient pour les choses qu'ils se sentaient sur les lèvres. René voulut que Céleste la déshabillât dans la chambre à coucher où il y avait un grand feu. La chambrière ôtait les épingles, enlevait les chiffons un à un sans se presser. Et Maxime, ennuyé, prit machinalement la chemise qui se trouvait à côté de lui sur une chaise et la fit chauffer devant la flamme, penchée, les bras élargis. C'était lui qui, aux jours heureux, rendait ce petit service à René. Elle eut un attendrissement à le voir présenter délicatement la chemise au feu. Puis, comme Céleste n'en finissait pas, « Tu t'es bien amusé à ce bal ?» demanda-t-il.
« Oh non, tu sais, toujours la même chose, » répondit-elle. « Beaucoup trop de monde, une véritable cohue. »
Il retourna la chemise qui se trouvait chaude d'un côté. « Quelle toilette avait Adeline ?»«
Une robe mauve assez mal comprise. Elle est petite et elle a la rage des volants. »
Ils parlèrent des autres femmes. Maintenant, Maxime se brûlait les doigts avec la chemise.
« Mais tu vas la roussir !»
dit René, dont la voix avait des caresses maternelles. Céleste prit la chemise des mains du jeune homme. Il se leva, alla regarder le grand lit gris et rose, s'arrêta à un des bouquets brochés de la tenture pour tourner la tête, pour ne pas voir les seins nus de René. C'était instinctif. Il ne se croyait plus son amant, il n'avait plus le droit de voir.
Puis il tira un cigare de sa poche et l'alluma. René lui avait permis de fumer chez elle. Enfin, Céleste se retira, laissant la jeune femme au coin du feu, toute blanche, dans son vêtement de nuit. Maxime marcha encore quelques instants, silencieux, regardant du coin de l'œil René, qu'un frisson semblait reprendre. Et, se plantant devant la cheminée, le cigare aux dents, il demanda d'une voix brusque « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était mon père qui se trouvait avec toi hier soir ?» Elle leva la tête, les yeux tout grands, avec un regard de suprême angoisse, puis un flot de sang lui empourpra la face. Et, anéantie de honte, elle se cacha dans ses mains. Elle balbutia « Tu sais cela ? Tu sais cela ?» Elle se reprit. Elle essaya de mentir. « Ce n'est pas vrai. Qui te l'a dit ?» Maxime haussa les épaules. « Pardieu, mon père lui-même, qui te trouve joliment faite et qui m'a parlé de tes hanches. » Il avait laissé percer un léger dépit, mais il se remit à marcher, continuant d'une voix grondeuse et amicale entre deux bouffées de cigare. « Vraiment, je ne te comprends pas. Tu es une singulière femme. » Hier, c'est ta faute si j'ai été grossier. Tu m'aurais dit que c'était mon père, je m'en serais allé tranquillement, tu comprends. Moi, je n'ai pas le droit, mais tu vas me nommer monsieur de Saffré. » Elle sanglotait, les mains sur son visage. Il s'approcha, s'agenouilla devant elle, lui écarta les mains de force. « Voyons, dis-moi pourquoi tu m'as nommé monsieur de Saffré ?» Alors, détournant encore la tête, elle répondit au milieu de ses larmes, à voix basse, « Je croyais que tu me quitterais si tu savais que ton père... » Il se releva, reprit son cigare qu'il avait posé sur un coin de la cheminée et se contenta de murmurer « Tu es bien drôle, va. » Elle ne pleurait plus. Les flammes de la cheminée et le feu de ses joues séchaient ses larmes. L'étonnement de voir Maxime si calme devant une révélation qu'elle croyait devoir l'écraser lui faisait oublier sa honte. Elle le regardait marcher, elle l'écoutait parler, comme dans un rêve. Il lui répétait, sans quitter son cigare, qu'elle n'était pas raisonnable, qu'il était tout naturel qu'elle eût des rapports avec son mari, qu'il ne pouvait vraiment songer à s'en fâcher. Mais aller avouer un amant quand ce n'était pas vrai... Et il revenait toujours à cela, et cette chose qu'il ne pouvait comprendre et qui lui semblait réellement monstrueuse. Il parla des imaginations folles des femmes. « Tu es un peu fêlée, ma chère, il faut soigner ça. » Il finit par demander curieusement, « Mais pourquoi monsieur Saffré plutôt qu'un autre ?»« Il me fait la cour, » dit René. Maxime retint une impertinence. Il allait dire qu'elle s'était sans doute crue plus vieille d'un mois en avouant monsieur de Saffré pour amant. Il n'eut que le sourire mauvais de cette méchanceté. Et, jetant son cigare dans le feu, il vint s'asseoir de l'autre côté de la cheminée. Là, il parla raison. Il donna à entendre à René qu'il devait rester bon camarade. Les regards fixes de la jeune femme l'embarrassaient un peu, pourtant. Il n'osa pas lui annoncer son mariage. Elle le contemplait longuement, les yeux encore gonflés par les larmes. Elle le trouvait pauvre, étroit, méprisable, et elle l'aimait toujours, de cette tendresse qu'elle avait pour ses dentelles. Il était joli sous la lumière du candélabre, placé au bord de la cheminée à côté de lui. Comme il renversait la tête, la lueur des bougies lui dorait les cheveux, lui glissait sur la face, dans le duvet léger des joues, avec des blondeurs charmantes. « Il faut pourtant que je m'en aille, » dit-il à plusieurs reprises. Il était bien décidé à ne pas rester. René ne l'aurait pas voulu d'ailleurs. Tous deux le pensaient, le disaient. Ils n'étaient plus que deux amis. Et quand Maxime eut enfin serré la main de la jeune femme et qu'il fut sur le point de quitter la chambre, elle le retint encore un instant en lui parlant de son père. Elle en faisait un grand éloge. « Vois-tu, J'avais trop de remords. Je préfère que ça soit arrivé. Tu ne connais pas ton père. J'ai été étonnée de le trouver si bon, si désintéressé. Le pauvre homme a de si gros soucis en ce moment. » Maxime regardait la pointe de ses bottines, sans répondre, d'un air gêné. Elle insistait. Tant qu'il ne venait pas dans cette chambre, ça m'était égal. Mais après, quand je le voyais ici, affectueux, m'apportant d'un argent qu'il avait dû ramasser dans tous les coins de Paris, se ruinant pour moi sans une plainte, j'en devenais malade. Si tu savais avec quel soin il a veillé à mes intérêts. » Le jeune homme revint doucement à la cheminée, contre laquelle il s'adossa. Il restait embarrassé, la tête basse, avec un sourire qui montait peu à peu de ses lèvres. « Oui, murmura-t-il, mon père est très fort pour veiller aux intérêts des gens. » Le son de sa voix étonna René. Elle le regarda, et lui, comme pour se défendre, « Oh, je ne sais rien, je dis seulement que mon père est un habile homme. »« Tu aurais tort d'en mal parler, » reprit-elle. « Tu dois le juger un peu en l'air. » Si je te faisais connaître tous ces embarras, si je te répétais ce qu'il me confiait encore ce soir, tu verrais comme on se trompe quand on croit qu'il tient à l'argent. » Maxime ne put retenir un haussement d'épaule. Il interrompit sa belle-mère d'un rire d'ironie. « Va, je le connais beaucoup. Il a dû te dire de bien jolies choses. Conte-moi donc ça. » Ce ton railleur la blessait. Alors, elle renchérit encore sur ses éloges. Elle trouva son mari tout à fait grand. Elle parla de l'affaire de Charonne, de ce tripotage où elle n'avait rien compris, comme d'une catastrophe dans laquelle s'étaient révélées à elle l'intelligence et la bonté de Saccard. Elle ajouta qu'elle signerait l'acte de cession le lendemain, et que, si c'était réellement là un désastre, elle acceptait ce désastre en punition de ses fautes. Maxime la laissait aller, ricanant, la regardant en dessous. Puis il dit à demi-voix « C'est ça, c'est bien ça. » Et plus haut, mettant la main sur l'épaule de René, « Ma chère, je te remercie, mais je savais l'histoire. C'est toi qui es d'une bonne patte. » Il fit de nouveau mine de s'en aller. Il éprouvait une démangeaison furieuse de tout compter. Elle l'avait exaspéré avec ses éloges sur son mari, et il oubliait qu'il s'était promis de ne pas parler pour s'éviter tout désagrément. « Quoi ? Que veux-tu dire ? » demanda-t-elle. « Eh, pardieu ! Que mon père te met dedans de la plus jolie façon du monde ! Tu me fais de la peine, vrai, tu es trop godiche !» Et il lui conta ce qu'il avait entendu chez Laure. Lâchement, sournoisement, goûtant une secrète joie à descendre dans ses infamies. Il lui semblait qu'il se vengeait d'une injure vague qu'on venait de lui faire. Son tempérament de fille s'attardait béatement à cette dénonciation, à ce bavardage cruel surpris derrière une porte. Il n'épargna rien à René, ni l'argent que son mari lui avait prêté à usure, ni celui qu'il comptait lui voler, à l'aide d'histoires ridicules, bonnes à endormir les enfants. La jeune femme l'écoutait, très pâle, les lèvres serrées. Debout devant la cheminée, elle baissait un peu la tête, elle regardait le feu. Sa toilette de nuit, cette chemise que Maxime avait fait chauffer, s'écartait, laissait voir des blancheurs immobiles de statues. « Je te dis tout cela, » conclut le jeune homme, « pour que tu n'aies pas l'air d'une sotte. Mais tu aurais tort d'en vouloir à mon père. Il n'est pas méchant et il a ses défauts comme tout le monde. À demain, n'est-ce pas ?» Il s'avançait toujours vers la porte. René l'arrêta d'un geste brusque. « Reste !» cria-t-elle impérieusement. Et le prenant, l'attirant à elle, l'asseyant presque sur ses genoux devant le feu, elle le baisa sur les lèvres en disant « Ah, bien, ce serait trop bête de nous gêner maintenant. Tu ne sais donc pas que depuis hier, depuis que tu as voulu rompre, je n'ai plus la tête à moi. Je suis comme une imbécile. Ce soir, au bal, j'avais un brouillard devant les yeux. C'est qu'à présent, j'ai besoin de toi pour vivre. Quand tu t'en iras, je serai vidée. Ne ris pas, je te dis ce que je sens. » Elle le regardait avec une tendresse infinie, comme si elle ne l'eût pas vu depuis longtemps. « Tu as trouvé le mot. J'étais godiche. Ton père m'aurait fait voir aujourd'hui des étoiles en plein midi. Est-ce que je savais ? Pendant qu'il me contait son histoire, je n'entendais qu'un grand bourdonnement, et j'étais tellement anéanti qu'il m'aurait fait mettre à genoux s'il avait voulu pour signer ses paperasses. Et je m'imaginais que j'avais des remords. Vrai, j'étais bête à ce point !» Elle éclata de rire. Des lueurs de folie luisaient dans ses yeux. Elle continua, en serrant plus étroitement son amant. « Est-ce que nous faisons le mal, nous autres ? Nous nous aimons, nous nous amusons comme il nous plaît. Tout le monde en est là, n'est-ce pas ? Vois, ton père ne se gêne guère. Il aime l'argent et il en prend où il en trouve. Il a raison, ça me met à l'aise. D'abord, je ne signerai rien. Et puis tu reviendras tous les soirs. J'avais peur que tu ne veuilles plus, tu sais, pour ce que je t'ai dit. Mais puisque ça ne te fait rien, d'ailleurs, je lui fermerai ma porte, tu comprends maintenant ? » Elle se leva, elle alluma la veilleuse. Maxime hésitait, désespéré. Il voyait la sottise qu'il avait commise. Il se reprochait durement d'avoir trop causé. Comment annoncer son mariage maintenant ? C'était sa faute. La rupture était faite, il n'avait pas besoin de remonter dans cette chambre, ni surtout d'aller prouver à la jeune femme que son mari la dupait. Et il ne savait plus à quel sentiment il venait d'obéir, ce qui redoublait sa colère contre lui-même. Mais s'il eut la pensée un instant d'être brutal une seconde fois, de s'en aller, la vue de René qui laissait tomber ses pantoufles lui donna une lâcheté invincible. Il eut peur, il resta. Le lendemain, quand Saccard vint chez sa femme pour lui faire signer l'acte de cession, elle lui répondit tranquillement qu'elle n'en ferait rien, qu'elle avait réfléchi. D'ailleurs, elle ne se permit pas même une allusion. Elle s'était jurée d'être discrète, ne voulant pas se créer des ennuis, désirant goûter en paix le renouveau de ses amours. L'affaire de Charonne s'arrangerait comme elle pourrait. Son refus de signer n'était qu'une vengeance. Elle se moquait bien du reste. Saccard fut sur le point de s'emporter. Tout son rêve croulait. Ses autres affaires allaient de mal en pis. Il se trouvait à bout de ressources, se soutenant par un miracle d'équilibre. Le matin même, il n'avait pu payer la note de son boulanger. Cela ne l'empêchait pas de préparer une fête splendide pour le jeudi de la mi-carême. Il éprouva, devant le refus de René, cette colère blanche d'un homme vigoureux arrêté dans son œuvre par le caprice d'un enfant. Avec l'acte de cession en poche, il comptait bien battre monnaie en attendant l'indemnité. Puis, quand il se fut un peu calmé et qu'il eut l'intelligence nette, il s'étonna du brusque revirement de sa femme. À coup sûr, elle avait dû être conseillée. Il flaira un amant. Ce fut un pressentiment si net qu'il courut chez sa sœur pour l'interroger, lui demander si elle ne savait rien sur la vie cachée de René. Sidonie se montra très aigre. Elle ne pardonnait pas à sa belle-sœur l'affront qu'elle lui avait fait en refusant de voir M. de Saffré. Aussi, quand elle comprit, aux questions de son frère, que celui-ci accusait sa femme d'avoir un amant, s'écria-t-elle qu'elle en était certaine. Et elle s'offrit d'elle-même pour espionner les tourtereaux. Cette pimbèche verrait comme cela de quel bois elle se chauffait. Saccard, d'habitude, ne cherchait pas les vérités désagréables. Son intérêt seul le forçait à ouvrir des yeux qu'il tenait sagement fermés. Il accepta l'offre de sa sœur. « Va, sois tranquille, je saurai tout !» lui dit-elle d'une voix pleine de compassion. « Ah, mon pauvre frère, ce n'est pas Angèle qui t'aurait jamais trahi. Un mari si bon, si généreux !» Ces poupées parisiennes n'ont pas de cœur. Et moi qui ne cesse de lui donner de bons conseils.